Le journal Sébastien Legenny. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Un ministre dans le viseur des députés, un chef de l'État qui tente de temporiser. L'affaire Benalla occupera encore ce matin une bonne partie de ce journal. L'Élysée s'est exprimé pour la première fois hier soir à quelques heures de l'audition très attendue de Gérard Collomb devant l'Assemblée nationale. On y revient dans un instant avec notre spécialiste politique Cyril Graziani. On y revient également à 8h20, Frédéric, avec l'invité du grand entretien qui sera le président de l'Assemblée nationale.
Pilier d'une majorité en crise, François de Rugy, Emmanuel Macron doit-il parler? Qui est vraiment Alexandre Benalla? Gérard Collomb est-il un fusible trop commode? Le Parlement est-il paralysé? Beaucoup de questions, sans oublier les vôtres, au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Au programme également, alerte au manque d'argent et au manque de mobilisation dans la lutte contre le sida. Des milliers d'experts et de militants se réunissent aujourd'hui aux Pays-Bas pour la conférence mondiale sur le sida. L'âme damnée de Donald Trump, le très conservateur Steve Bannon s'apprête à débarquer en Europe. Les scouts sont à la mode. Un coureur de l'équipe Sky exclu du Tour de France pour violence et du théâtre avec une pièce sur la migration méconnue des Japonaises aux États-Unis.
France Inter.
L'exécutif va-t-il réussir à circonscrire les flammes de l'incendie Benalla? C'est une semaine décisive qui s'ouvre dans cette affaire qui ne cesse de s'étendre. Dans moins de deux heures maintenant, un premier de cordée va se retrouver en première ligne face au député Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur auditionné par la commission d'enquête parlementaire. On y reviendra. En attendant, direction l'Élysée pour commencer. L'Élysée qui a fini par parler tard hier soir, pas le président lui-même, mais son entourage en off, comme on dit. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Alors que dit la présidence?
Alors le 3 mai pour l'Élysée, le comportement d'Alexandre Benalla pour l'Élysée était inapproprié. Près de trois mois plus tard, il est désormais inacceptable, choquant. En privé, Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne pouvait laisser accréditer l'idée que quelqu'un dans son entourage pouvait être au-dessus des lois et qu'il n'y aurait pas d'impunité. En attendant, le chef de l'État considère qu'il y a eu une série de dysfonctionnements au palais depuis le 1er mai. Il a chargé son secrétaire général de travailler à une réorganisation des services pour empêcher qu'un événement comme celui-ci ne se reproduise.
Comportement inacceptable, pas d'impunité. Sur le plan judiciaire, en effet, la machine est en route. 5 personnes mises en examen hier. Alexandre Benalla lui-même poursuivi pour violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Même chose pour son comparse, le gendarme réserviste Vincent Crase. 3 policiers sont par ailleurs mis en examen pour avoir transmis des bandes de vidéosurveillance aux chargés de mission présidentielle. Tous ont été placés sous contrôle judiciaire. Voilà pour l'enquête judiciaire, mais l'enquête qui inquiète le plus, c'est bien l'enquête parlementaire avec, on le disait dans le viseur des députés ce matin, le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, suivi du premier flic de Paris, Michel Delpuech, préfet de police de la capitale. Que savait-il des fonctions de M. Benalla et surtout pourquoi n'ont-ils pas saisi la justice plus tôt? Début des questions à 10h, salle 62-42 exactement à l'Assemblée, une audition sous serment et publique, retransmise en direct par toutes les chaînes d'info. Une audition sous tension évidemment avec des députés qui réclament beaucoup plus qu'une simple audition du ministre de l'Intérieur. Olivier Faure, pour les socialistes, attend maintenant que le chef de l'État lui-même s'exprime.
Il est effectivement directement mis en cause. Il est le président qui a même érigé le principe de responsabilité au plus haut. Et donc, dans une république de responsabilité, le président doit s'exprimer. Parce que c'est lui qui, en dernier ressort, est le responsable de cette affaire. C'est lui qui a organisé ou laissé organiser sous son toit une police parallèle, qui a refusé de sanctionner un individu qui s'était comporté de manière violente et qui avait usurpé des titres qui n'étaient pas les siens. Et donc, on aimerait effectivement entendre le chef de l'État. Ce serait bien la moindre des choses.
Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Je reviens vers vous, Cyril Graziani. Les députés de l'opposition rivalisent pour faire monter la pression.
Et l'opposition, tout parti confondu, s'est jetée sur cette affaire avec, dit un de ses représentants, une haine quasi sauvage. Pour une ancienne ministre socialiste, Macron et les siens payent cash tout leur comportement, leur mépris, leur arrogance. C'est bien la peine, poursuit-elle, de faire la leçon sur le Nouveau Monde pour finir avec une sombre affaire de barbouze comme à la Belle Époque. La majorité, c'est vrai, qui a perdu pied depuis les révélations du Monde, avec une ligne de défense, l'obstruction parlementaire. Pour un ténor de la majorité qui se lamente, l'opposition a vu le sang couler et va continuer.
Et puis dernière question, Cyril, que peut faire maintenant l'Élysée? Le chef de l'État va-t-il finir par sortir de son silence?
Emmanuel Macron a d'abord chargé ses proches de se démultiplier ce matin dans les médias pour tenter de circonscrire un incendie qui semble toutefois incontrôlable. Pour un de ses amis, le Le chef de l'État ne parlera que quand il le jugera utile. Il attend quelques jours que la situation se calme. Pourquoi prendrait-il la parole, s'interroge de son côté un conseiller ministériel. Il n'a pas fait exécuter des opposants dans les fosses du Louvre. Tu parles au climax quand tu es au paroxysme d'une affaire, glisse un ami d'Emmanuel Macron. Et dire qu'il y a une semaine, ici, à la même heure, nous commentions la victoire des Bleus, le bénéfice que le président pouvait en tirer, c'était il y a une éternité.
Cyril Graziani, merci. Puis je rappelle à 8h20 l'entretien avec François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée paralysée donc par l'affaire Benalla, mais qui doit en théorie poursuivre sa session parlementaire jusqu'au 2 août prochain. La réforme de la Constitution n'est plus au programme, mais la loi sur l'avenir professionnel est au menu du jour, avec notamment une réforme de l'apprentissage.
France Inter, 8h06, le journal de Sébastien Logénie. L'épidémie de sida risque-t-elle de repartir à la hausse?
La question est au cœur du prochain grand événement consacré à la lutte contre le virus, la conférence internationale sur le sida. Ça commence aujourd'hui à Amsterdam. Une grand-messe qui rassemble cette année 15 000 experts et militants qui tous font le même constat. Certes, le sida tue beaucoup moins que dans les années 90, mais comme il tue moins, le virus fait aussi moins peur. Résultat, la prévention se relâche, les pays donnent moins d'argent et l'épidémie ne ralentit plus autant qu'on pouvait l'espérer. Daniel Messager.
Jamais il n'y a eu autant de personnes infectées par le VIH sous traitement, 22 millions. Pour autant, la lutte contre le sida est en plein paradoxe, car on constate un relâchement dans la prévention et un recours au dépistage loin d'être acquis. Les résultats qu'on attendait ne sont donc pas au rendez-vous, constat qui va être fait à Amsterdam. Professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida.
En 2016, on a dit qu'il faudrait qu'en 2020, il y ait moins de 500 000 nouvelles infections par an. Aujourd'hui, il en reste encore à peu près 1 800 000. On a dit qu'il faudrait moins de 500 000 décès. C'est encore pratiquement 1 million. Nous stagnons. Il faut vraiment aller vite. Et nous n'allons pas aujourd'hui assez vite dans la lutte mondiale contre le VIH.
Néanmoins, la recherche avance. Les résultats sur ce qu'on appelle la PrEP, prendre un traitement avant un rapport sexuel pour ne pas être contaminé, vont occuper une bonne partie des présentations. On va aussi parler nerf de la guerre, l'argent, qui pourrait manquer, en particulier celui en provenance des États-Unis. François Dabis.
Il manque au minimum 20 à 25% des moyens que l'on pense être nécessaires à l'échelle planétaire. Mais l'année prochaine, on va discuter du plan de financement international pour les 5 années suivantes. Nul doute que dès la conférence d'Amsterdam, ces débats commenceront à avoir lieu.
Et ce sera la France qui organisera cette conférence, certainement très suivie.
Daniel Messager, spécialiste santé à Inter. Selon l'ONU SIDA, il manque 7 milliards par an pour que cette maladie ne soit plus une menace en 2030. Une semaine à haut risque également pour le commerce international, avec une visite très attendue à Washington du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce sera mercredi. Sur la table notamment la menace de Donald Trump de taxer les voitures européennes. Hier, le G20, les 20 pays les plus industrialisés de la planète, ont estimé que la croissance mondiale était robuste mais menacée à court et moyen terme par l'augmentation des tensions commerciales et géopolitiques. Au chapitre de ces tensions, justement, celle entre Washington et Téhéran est remontée d'un cran cette nuit. Donald Trump s'est adressé directement au pouvoir iranien sur son compte Twitter. « Ne menacez plus jamais les États-Unis », écrit le président américain tout en capital, où vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant. Un tweet rageur suite aux propos tout aussi menaçants d'Hassan Rouhani, le président iranien, prévenant Trump qu'une guerre avec l'Iran serait, je cite, la mère de toutes les guerres.
Steve Bannon va poser ses valises en Europe.
Oui, dans une interview accordée au Daily Beast, l'ancien conseiller stratège de Donald Trump affirme qu'il veut monter une fondation politique à Bruxelles. L'ultranationaliste et figure de la droite dure américaine veut ainsi soutenir les mouvements populistes européens et muscler les idées d'extrême droite en vue des élections européennes au printemps prochain. Marco Voltaire.
L'idée lui serait venue lors du dernier congrès du Front National à Lille. Steve Bannon, invité à prononcer un discours, aurait alors réalisé que les partis d'extrême droite en Europe ne partagent pas assez leurs ressources. Bannon compte donc y remédier avec la création d'une fondation qu'il veut baptiser The Movement, le mouvement qui aurait son QG à Bruxelles et emploierait pour commencer une dizaine de personnes. The Movement pourra fournir des sondages, des bases de données, du conseil en communication, des messages prêts à l'emploi pour booster directement ou indirectement les candidatures de droite aux élections européennes. Voilà plusieurs années que Steve Bannon tissait sa toile avec The Movement. Il compte bientôt passer autant de temps en Europe qu'aux États-Unis. Selon lui, le populisme nationaliste de droite va gouverner le vieux continent et à ses yeux, les plus vulnérables sont désormais Angela Merkel et Emmanuel Macron. À New York, Marc Voltaire pour France Inter.
8h10, marcassin enthousiaste ou caribou minutieux. On croyait le scoutisme démodé. Eh bien, pas du tout, Sébastien.
Oui, selon un sondage Opinionway, 2 Français sur 3 en ont une image du scoutisme assez positive. Et depuis ces dernières années, les scouts sont de plus en plus nombreux. 180 000 jeunes nés encadrants aujourd'hui, plus 30% en 15 ans. Le scoutisme se débarrasse petit à petit de sa dimension religieuse et les parents y voient un espace où leurs enfants peuvent apprendre solidarité et autonomie. Naïla Derouanet a rencontré des scouts, les scouts de Sucy-en-Brie. Ils ont posé leur camp pendant une semaine au château de Villebon dans l'Essonne.
Le scoutisme, c'est surtout pour les enfants, synonyme d'amusement. Au château de Villebon, le thème, c'est Harry Potter, le jeune apprenti sorcier. Et tout comme lui, les louveteaux Jeannette, c'est comme ça qu'on appelle les filles et les garçons de 8 à 11 ans, apprennent toutes sortes de choses.
J'ai appris à aimer les gens, à toujours être avec eux. Même si je l'aime pas, je vais pas l'insulter ou enfin voilà.
Les chefs, chaque jour, ils passent un moment de la journée dans les tentes et ils examinent si on a bien rangé les tentes et tout.
T'as la roue des services, tu dois faire la cuisine, allumer le feu, remplir les bidons, tout ça.
Quant à la dimension spirituelle, elle est présente mais reste secondaire. Nathalie Requin est la directrice du camp.
Par exemple, le bénédicité avant de se mettre à table, même s'il y a aussi une part de jeu parce qu'on chante des bénédicités qui sont sur des airs connus, Frère Jacques ou des canons. Enfin, donc là, les enfants sont heureux de les chanter. Puis il y a des louveteaux Jeannette qui ne sont pas pratiquants. Il y en a quelques-uns qui sont orthodoxes. Et on leur demande juste d'être présents au temps que nous vivons et ils y participent de la manière dont ils veulent. Ils peuvent rester un peu en retrait, mais on est là. Et je crois que la manière dont c'est proposé permet à chacun de trouver sa place.
Aujourd'hui, le mouvement des scouts connaît un regain mondial. Ils sont estimés à 60 millions répartis sur toute la planète.
Reportage de Naïla Derouanet. Les scouts reviennent à la mode à retrouver sur franceinter.fr. Attention avec les températures caniculaires. Aujourd'hui à Paris, on attend un nouveau pic de pollution à l'ozone. La ville de Paris met donc en place le stationnement résidentiel gratuit pour cette journée. Allez, on part pour le Tour de France avec encore du tangage au sein de l'équipe Sky, ultra favorite mais très souvent huée sur les podiums. Hier, lors de la 15e étape du Tour, nouveau coup dur, le très nerveux Italien Gianni Moscone a été exclu de la course pour violence. Une mesure exemplaire pour un coureur à la réputation sulfureuse, Fabrice Rigobert.
Des propos racistes l'année dernière à l'égard de Kevin Reza qui ont obligé son équipe à le suspendre. Des accusations de la part de Sébastien Reichenbach, un autre coureur qui lui reprochait de l'avoir fait chuter. Des faits pour lesquels l'Italien a finalement été blanchi. À 24 ans, Gianni Moscone traîne l'image d'un personnage sanguin, borderline. Sa disqualification des mondiaux de Bergen l'année passée pour avoir profité de la méthode du bidon collé avec un directeur sportif afin de rester dans la course au titre mondial est un autre exemple. Hier soir, sur une vidéo postée sur le compte Twitter de son équipe, Gianni Moscone a regretté son geste et s'est excusé auprès d'Elie Gébert, cible du coup au visage porté en pleine course. Des excuses adressées aussi à ses coéquipiers de la Sky qui vont se retrouver à 5 pour protéger Chris Froome et Geraint Thomas. La Sky, sifflée chaque jour sur les podiums, n'avait pas vraiment besoin de ça dans cette période. Pas de quoi toutefois contrarier les plans de l'équipe britannique, à moins que cet épisode soit le grain de sable capable de gripper la machine à gagner. Carcassonne, Fabrice Rigobert, France Inter.
Aujourd'hui, le Tour fait une pause, repos pour tout le monde. En sport également, cette décision du très grand joueur allemand d'origine turque, Mesut Özil, de quitter la Mannschaft, écœuré par les critiques racistes à son égard. À l'origine, une photo prise avec le président turc avant le mondial. La défaite ensuite de l'équipe nationale a fait le reste. Özil accusé de plus se battre pour la Turquie que pour le maillot allemand. Il a pourtant marqué 23 buts en 92 sélections.
Direction Avignon pour terminer.
Dernière ligne droite pour le 72e festival au Cloître des Carmes. On peut y voir une adaptation du roman de l'américaine d'origine japonaise, Julie Otsuka. Certaines n'avaient jamais vu la mer. L'histoire méconnue de la migration au début du XXe siècle de japonaises aux États-Unis. Stéphane Capron.
Pour ces japonaises, comme pour les migrants d'aujourd'hui, les États-Unis c'était la terre promise, l'assurance d'une vie meilleure. Au début du XXe siècle, des femmes rejoignent en masse des hommes japonais partis faire fortune. Une fois arrivées sur place, c'est la désillusion. Elles sont violées, exploitées, méprisées. Le roman de Julie Otsuka et la mise en scène de Richard Brunel racontent cette tragédie oubliée.
C'est vraiment un texte sur le destin tragique de femmes aux prises avec l'exil, aux prises avec la migration, d'une certaine manière, évidemment, mais aussi avec la culture qui n'est pas la sienne, l'intégration dans un pays, la langue, la fracture qu'il peut y avoir à un moment donné avec ses propres enfants qui sont intégrés dans un contexte et peu à peu être considéré à ce moment-là de devoir prouver sa loyauté à un pays qui vous rejette.
Lorsque les militaires japonais attaquent Pearl Harbor en 1942, les familles japonaises sont considérées comme des pestiférées. Elles sont déportées dans des camps en signe de représailles. Dans la dernière partie, la parole est donnée à l'accusation, aux Américains. Ils sont représentés sur scène par la comédienne Nathalie Dessay. Elle vient clamer le vide laissé par le départ de ses familles dans l'ignorance la plus totale.
Certaines n'avaient jamais vu la mer. Leur reportage de Stéphane Capron. Cette pièce sera jouée jusqu'au 24 juillet au Festival d'Avignon, au Cloître des Carmes, puis en tournée en France en 2019, et notamment au Théâtre des Quartiers d'Ivry en janvier 2019.
C'était le journal de Castor Joyeux, Sébastien Logeni sur France Inter.